France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la sombre histoire du roi du polar, José Giovanni. Le trou, le deuxième souffle, les grandes gueules, le clan des Siciliens. On a peut-être oublié le nom de José Giovanni, mais pas celui des classiques de la littérature et du cinéma policier qu'il a écrit, et notamment ses deux chefs-d'œuvre, Clastorusque et surtout Deux hommes dans la ville, surpuissant, émouvant. À la toute fin des années 50, Giovanni devient le roi du polar en France, ses romans sont publiés chez Gallimard, tandis que le cinéaste se presse pour les adapter au cinéma quand il ne les adapte pas lui-même. Ami et alter ego des plus grandes vedettes de son temps, les Ventura, Belmondo et autres de long, Giovanni impose ses héros virils mythifiés, son verbe sec et son sens de la mitraille dans la France des Trente Glorieuses. Et il a un secret, une source d'inspiration inouïe, sa propre vie. Lui, le gangster repenti, qui a connu la prison et le couloir de la mort, puise dans ses souvenirs de jeunesse une matière sans fin pour alimenter ses histoires. De l'ombre de la guillotine aux lumières du 7e art, voici une trajectoire de vie incroyable qui reste pourtant nimbée de mystère. Pour rien au monde, José Giovanni ne voulait qu'on vienne fouiller dans son passé. Notre invité aujourd'hui, notre spécialiste cinéma maison, Laurent Delmas, coproducteur avec Christine Masson de l'émission On aura tout vu sur France Inter le samedi à 10h et auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du cinéma français, dont le récent Bertrand Tavernier, Le cinéma et rien d'autre, publié chez Gallimard. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct, récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Charles Cilia. Si vous avez déjà lu un scénario de film, à moins d'être professionnel, vous vous êtes aperçu que cette lecture très spécifique est compliquée. On s'y perd facilement. Tout semble décousu, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais bon, pour le lecteur béotien, c'est un peu la jungle. Dont acte. Rue Gramont à Paris, 18 mai 1945, 10h, extérieur jour. Une Citroën traction avant noire se gare en contrebas d'un immeuble. À son bord, quatre jeunes hommes, mine sombre. Le conducteur, Paul Damiani, green clope, il a l'air détendu. Joseph et Ménassol, vous y allez ? Pourquoi pas toi, Paul ? Réplique le dénommé Ménassol. Parce que t'es le seul à avoir une tête de troufion, lui répond-on. Jean Jacquard, le quatrième larron, ricane en voyant ses deux compères déguisés en sous-lieutenant de l'armée se diriger vers la porte d'un immeuble. Quelques étages au-dessus, Haïm Cohen, représentant en vain, fait les 100 pas dans son petit bureau. Il a l'air inquiet. Ses superbes souliers de cuir marron Weston tapent nerveusement contre le parquet de bois. Cohen marque le pas, puis va ouvrir la porte. Dans l'embrasure, les visages de Joseph et Ménassol apparaissent. « Sûreté militaire, nous venons pour une perquisition », déclame-t-il. La Citroën traction avant débarque, fondue au noir. Extérieur nuit, une villa sur elle. La traction avant déboule dans l'allée. Le pauvre Haïm Cohen a le visage tuméfié, un flingue sur la tempe. Il est solidement gardé par les deux molosses. La voiture se gare devant la grande bâtisse aux allures gothiques. Un panneau marque l'entrée dans le domaine, Villa du Bon Repos. Extérieur jour, la Seine. Au petit matin, un corps flotte à la surface. Il a la tête enveloppée dans une serpillière tachée de sang. Détail remarquable, bien que tout habillé, le cadavre n'a plus de chaussures. Extérieur jour, Maison Alfort, 31 mai 1945. Les souliers de cuir marron de chez Weston foulent le pavé. Jacques Ménassol est confortablement chaussé lorsqu'il sort de la traction avant noire garée devant une rue étroite. Joseph Damiani l'accompagne à nouveau. Une main lui saisit la manche, c'est son frère Paul qui l'arrête. Les deux frères Damiani échangent un regard en silence. Puis Joseph se dirige vers le fond de la rue. Une grande enseigne surmonte la porte d'un atelier sur laquelle on peut lire « Frère Peugeot, fabricant d'appareils électriques ». Au premier plan, Paul, toujours au volant, allume une cigarette. Et on entend « Sûreté militaire, nous venons pour une perquisition ». Voilà, normalement à ce stade de la narration, vous êtes perdu. Peu importe, d'autant que ce début de film, qui fleure bon le polar des années 60, n'a été écrit nulle part. Ni en littérature, ni pour le cinéma, non. Ce ne sont que des faits éparpillés, une vérité enfouie de longues décennies au fond de la mémoire même de l'auteur. C'est le scénario que Joseph Giovanni n'a jamais écrit. Haïm Cohen, les frères Peugeot, Jacques Ménassol, Georges Jacob et Paul Giamatti, ces visages l'ont hanté toute sa vie. Ils habitent, sans qu'on le sache, chaque page de son œuvre. Lui, le grand écrivain de romans et films policiers, l'ami le plus cher de Lino Ventura.
Il y a toute une génération de jeunes scénaristes qui est arrivée, de jeunes metteurs en scène, mais qui ne peuvent pas écrire ce genre d'histoire parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas les hommes. Ils font du parisianisme, ils font je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas roulé leur bosse, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas souffert. Alors comment voulez-vous qu'ils vous écrivent des histoires d'hommes ? Bon, il y a très peu de gens qui peuvent écrire ce genre de choses à l'heure actuelle, à part José.
À l'aune des années 80, Lino Ventura le blues. Son âge d'or semble bien loin. Avec Giovanni, José comme il l'appelle, il veut s'offrir un dernier tour de piste avant de raccrocher. Une dernière aventure entre mecs comme au bon vieux temps. En termes de masculinité exacerbée, difficile de faire mieux que José, que ses années 60, machiste à souhait. José, le taiseux des grands espaces, c'est le fou d'action. Le tolard repenti qui a connu le couloir de la mort. Le gracié devenu le roi du polar en France, mais aussi l'un des scénaristes et réalisateurs les plus courus du cinéma français. Giovanni a écrit Aventura ses plus beaux rôles dans Les Grandes Gueules, Le Deuxième Souffle, Le Clan des Siciliens ou encore Dernier Domicile Connu. José est le frère de cinéma avec qui Lino partage tout. À commencer par sa vision de ce qu'est un homme, un vrai, avec des muscles et une grosse voix. Autre époque, autre temps. D'ailleurs, ce côté mec amuse beaucoup le trublion Pierre Desproges, qui ne se gêne pas en 1983, quand José Giovanni est invité dans le tribunal des flagrants délires sur France Inter pour présenter Les Ruffians, le dernier film de Giovanni avec Lino Ventura, donc, et qui, soit dit au passage, n'est pas son plus réussi.
Si au lieu de trottiner platement dans l'existence banale de Monsieur Tout-le-Monde, j'étais un héros de José Giovanni, là, alors, oui, vous seriez passionné. Vous aimez ça, hein, les grosses brutes viriles avec des poils aux pattes qui se bourrent la gueule à l'alcool à brûler en descendant le Niagara? Ça vous excite, les hypertrophiés du deltoïde qui s'éventrent à l'opinel pour tuer le temps entre deux fusillades? Hein? Ça vous fait bander, les bûcherons velus façon King Kong qui se défoncent la tronche à coups de pioche les jours fériés au lieu de regarder les films sur la une? Et qui finissent par mourir légèrement vivisectionnés en balançant par-ci, par-là, par-delà à l'écran les sempiternelles banalités sensiblardes du mélo phallocratique et autres lieux communs poilus qui célèbrent immanquablement ces vibrantes manifestations sirupeuses et culturistes de l'amitié virile avec un grand V, si j'ose m'exprimer ainsi.
Giovanni, la soixantaine, chauve, le visage émacié qu'éclaire un charmant accent corse, s'amuse à son tour des bons mots de Pierre Desproges. En ce début des années 80, le cinéaste est solidement implanté depuis plus de 20 ans dans le cinéma français. Entre les adaptations de ses romans, les scénarios qu'il a écrits et les films qu'il a lui-même réalisés, il est déjà l'auteur de 27 longs métrages. Il a dirigé les plus grands, Ventura, Bourville, Belmondo, Delon. Il a écrit pour Becker, Sauté, Melville ou Verneuil. Il est l'une des valeurs sûres du cinéma populaire français. Celui qui incarne au mieux ce que la critique appelle, non sans ironie, et parfois férocement, le cinéma de papa. Des histoires d'hommes, souvent en décalage avec leur temps, façonnées par la rue, la prison et les horreurs de la guerre. Des types à la gâchette facile, aux je t'aime qui ne sortent pas, et qui, lorsqu'ils sont réunis, disent à leur femme, laisse-nous, va dans la cuisine. Ceux qui passent à l'époque comme une lettre à la poste, et qui fait toujours rêver les réacs de tout poil, genre... C'était le bon temps. Dans les films de Giovanni, on peut croiser des gangsters qui ont vraiment vécu comme gangsters dans la vraie vie. Pierre Loutrel ou le célèbre Abel Danos, qui inspire d'ailleurs le personnage de Lino Ventura dans Clastorisque. Qui mieux que Giovanni pour écrire l'histoire de ces hommes sans les juger? Lui qui, de notoriété publique, a fait 11 ans de prison et a échappé de peu à la guillotine. Un pédigré qui fascine les vedettes du cinéma qui jouent les gangsters. Giovanni est revenu de l'enfer, ou plutôt du trou, du nom de son premier roman et premier succès. Et il en parle comme personne d'autre. Au tribunal des flagrants délires, toujours, il n'évite pas la question sur sa biographie. Ses aventures dans la résistance, le passage dans la délinquance, à la libération, puis son séjour en prison et l'écriture de son premier livre, Le Trou donc, récit de sa tentative d'évasion ratée et dont Jacques Becker fera un film inoubliable.
Le Trou, c'était une aventure personnelle.
Une évasion.
Oui, une évasion. Ce Trou, c'était beau parce que c'était un truc simple, c'était une croyance primaire. C'est de croire, quand on a 20 ans, qu'il suffit, dans une cellule, de faire un trou pour gommer le passé. Je me suis dit, bon, ben, on est là, on fait un trou, on passe par les égouts, on scie encore une ou deux grilles, on est dehors, c'est fini. Non, c'est tout commence là. Ce passé est là, il est toujours là, on le gommera jamais.
Et votre passé, il est toujours là, même ayant écrit tous ces livres, où vous avez pu exorciser un petit peu.
Non, ce passé, je n'arrive pas. Enfin, ça me fait drôle, ici, c'est un peu marrant pour moi d'être dans un box. Mais quand vous êtes dans un box et que vous entendez raconter votre vie, vous ne reconnaissez pas votre vie.
Mais quel est ce passé qui ne passe pas ? Giovanni entretient toujours un flou autour des circonstances qui l'ont amené en prison. Quand Franck Lomeau, qui a enquêté en 2013 sur la bio du roi du polar, interroge Bertrand Tavernier, l'ancien assistant de Giovanni, celui-ci confesse.
Il n'en parlait pas ou très peu. Personne ne s'y intéressait vraiment. Et pas seulement sur son passé, mais aussi sur celui de ses personnages. Quand Claude Sautet fait classe tout risque, il n'a aucune idée qu'Abel Danos a participé à la carlingue. Et personne n'en a aucune idée parce qu'on ne fait pas beaucoup de recherches. On n'en parle pas.
La carlingue, c'est l'autre nom de la Gestapo française. Et Abel Danos, incarné par la figure morale de Lino Ventura dans classe tout risque, a été l'un des collabos les plus zélés, véritable porte-flingue des nazis. Giovanni l'ignore quand il brosse un portrait tendre du parrain parisien dans son roman et son scénario. Et comment l'a-t-il connu ? Rencontré en prison, raconte-t-il, toujours vague. Avec Giovanni, il y a des questions qu'on ne pose pas. Mais la vérité n'est pas cachée si profondément. Lino Ventura le sait trop bien. Un jour, il reçoit une lettre anonyme. Selon la légende que rapporte Bertrand Tavernier, ce serait Jean-Pierre Melville qui, à la suite d'une terrible dispute avec Giovanni, aurait voulu se venger du scénariste en envoyant son dossier judiciaire à son grand ami Lino Ventura. On imagine aisément la mine grave de l'imposant acteur, le regard fixé sur la missive. Tous les secrets de Giovanni sont là, prêts à être révélés. Mais pourquoi a-t-il été condamné à mort ? Heureusement, pour lui, fidèle parmi les fidèles, homme d'honneur, un peu comme les gangsters qui s'auto-attribuent cette qualité, Lino Ventura déchire le dossier sans le lire. Cette bio devait rester enfouie jusqu'à la mort de Giovanni. Pourtant, à travers ses fictions, ses mémoires publiées dans les années 90 et ses innombrables interviews, Giovanni s'est beaucoup raconté. Mais au fond, que sait-on vraiment de lui au-delà de ce qu'il a lui-même révélé ? En 2002 encore, sur le plateau de Thierry Ardisson, toujours Giovanni, gangster tendre au seuil de sa vie, vient présenter ses mémoires dans lesquelles il raconte une dernière fois son histoire familiale, son rapport conflictuel à son père et son passé criminel.
Il faudra 8 morts, effectivement, pour que vous commenciez à voir votre père autrement. Un braquage qui tourne mal, tous morts, sauf vous, qui restez et qui, d'une certaine façon, payer l'addition à la place des autres, vous êtes condamné à mort à l'âge de 22 ans et dites-vous sans avoir tué personne. Alors vous êtes mis en prison au quartier spécial, vous êtes tondu, vous portez des sabots, vous avez des chaînes aux pieds. Il y a un brigadier, vous racontez ça dans votre bouquin, il y a un brigadier qui s'appelle Fournil qui de temps en temps vous enlève les chaînes quand votre père vient vous voir au parloir, car il vient.
Un braquage qui a mal tourné aurait donc conduit Giovanni jusqu'au couloir de la mort. Pourtant, d'autres informations circulent sur l'histoire de l'écrivain. Dès 1993, une agence de presse suisse s'intéresse à son cas, mais ces informations ne sont pas relayées en France. Et Giovanni avait laconiquement plaidé pour le droit à l'oubli. Ce n'est qu'en 2013 que la vérité refait pleinement surface. Et pour la comprendre, il faut revenir dans les années 30, à Pigalle. Joseph Damiani, le véritable nom de Giovanni, grandit dans les rues agitées du Paris des années folles, où ses parents, immigrés corses, se sont établis en provenance d'Amérique. À Harlem, la famille Damiani s'est fait la main dans le monde de la nuit. À Paris, elle possède 2 hôtels et a les moyens d'offrir une place au soleil aux plus jeunes du clan. Le jeune Joseph et son grand frère, Paul, fréquente ainsi les prestigieux lycées Janson et Stanislas. Mais le père est un flambeur, un joueur de casino doublé d'un magouilleur. Ses déboires avec la police ruinent la famille. Et voilà le clan corse qui reprend la route. Les Damiani achètent un hôtel à Chamonix, où Joseph tombe amoureux de la montagne, avant de s'installer à Marseille au début de la guerre. Voilà pour la trajectoire familiale, à qui Joseph reste accroché comme un bigorneau à son rocher. Il a 20 ans, n'a passé que quelques mois à la fac de droit, a multiplié les petits boulots sans envergure, et va bien devoir s'inventer un avenir dans cette France occupée.
Nous faisons le serment.
Nous faisons le serment.
De nous unir.
De nous unir.
Et de mettre toutes nos forces.
Et de mettre toutes nos forces.
Notre foi.
Notre foi.
Notre ardeur.
Notre ardeur.
Au service du maréchal.
Au service du maréchal.
Au service de la France.
Au service de la France.
Comme beaucoup de garçons de sa génération, c'est dans les mouvements de jeunesse orchestrés par le régime de Vichy que Joseph trouve sa place. Il intègre Jeunesse et Montagne pour renouer avec sa passion première, l'alpinisme. Il en fait un moment fondateur de sa légende, le récit d'une initiation virile classique, aventure et camaraderie. Et la suite de son destin s'écrit avec les mêmes lettres que ses congénères, S-T-O. Ce service de travail obligatoire en Allemagne qui pousse des centaines de jeunes réfractaires à prendre le maquis et à entrer en résistance. Joseph serait l'un d'eux. Parce que cette histoire, il la répète tout au long de sa vie. Comme là encore dans le magazine Alpinisme et Randonnée en 1997.
Je suis parti à Nantes où j'avais une sœur qui tenait un bar. Je suis rentré dans les forces françaises libres, j'ai été fait prisonnier, je me suis évadé. Et puis je suis arrivé à Paris, à Pigalle. Parce que j'avais quand même mon frère et mon oncle qui étaient dans le gangstérisme. Pigalle libéré, c'était le Far West. Je me suis retrouvé dans un mauvais coup et j'ai fait 10 ans de prison.
Joseph Damiani, le résistant devenu délinquant, ça sonne bien. Mais est-ce vraiment la vérité? Selon les traces qu'il a laissées dans les dossiers de l'administration française, rien n'est moins sûr. Retour à l'automne 1945. Le juge d'instruction Lara, du tribunal de Marseille, demande d'ouverture une enquête à la police judiciaire. Il recherche des informations sur un nommé Joseph Damiani, né en 1923 à Paris et demeurant à Marseille. Celui-ci est soupçonné d'être membre du PPF, le Parti populaire français de Jacques Doriot, fasciste et collaborationniste, et d'avoir été enrôlé dans les SK pour Schutzkorps, une section des services secrets allemands spécialisée dans la chasse aux réfractaires du STO. À ce titre, Joseph aurait bénéficié d'un Ausweis, une carte d'identité allemande permettant de circuler librement sur le territoire et d'un port d'armes. En cet automne 45, le juge Lara ouvre ainsi une instruction contre le jeune Damiani pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État, en un mot, pour collaboration. Les preuves en sa possession sont solides et le juge ordonne l'arrestation du jeune homme. Mais Damiani ne se trouve pas chez lui, dans son domicile marseillais. À vrai dire, il est introuvable. Et ce n'est que 2 mois plus tard qu'il refait surface. Enfin, façon de parler. Joseph Damiani est détenu à la prison de la Santé. Il est inculpé pour séquestration, torture et un triple assassinat. Celui d'Aïm Cohen et des frères Peugeot dans la villa de Suresnes. Souvenez-vous, c'était la scène inaugurale de ce récit, sous forme de scénario de film.
Dans ce monde infernal,
Aujourd'hui, José Giovanni.
Affaires sensibles sur France Inter.
Tu ne nous connais pas et on ne te connaît pas non plus.
C'est juste.
Mais comme nouveau, on t'a adopté tout de suite, ou presque.
Vous êtes bien aimable.
Mais sans savoir, t'es tombé sur une cellule un peu spéciale. On n'est pas tous là pour la même raison. Mais quand on passera aux assises, le plus vénard ramassera 10 ans minimum.
Comme tu vois, mes amis et moi, nous risquons beaucoup.
En effet.
Alors nous, on voudrait bien savoir ce que tu risques toi, Gaspard.
Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend?
On voulait savoir ce que tu risquais. Parce que nous, on risque trop gros pour attendre ici tranquillement les assises.
Comment?
Nous, on va s'évader, mon vieux.
Dans le film Le Trou de Jacques Becker, tiré du premier roman de José Giovanni, celui-ci arbore les traits fins et calmes de Philippe Leroy, qui incarne Manu Borelli, l'avatar de Joseph Damiani. Le film relate sa tentative d'évasion ratée en 1946, alors qu'il croupit dans une cellule de la prison de la Santé. Mais jamais Le Trou n'ira plus loin dans les explications sur ce qui a amené ces malheureux en prison et ce pourquoi ils craignent tant leur passage aux assises. Mais les archives judiciaires, elles, en gardent la mémoire. Joseph Damiani est accusé d'un triple meurtre à Paris, auquel se joint une enquête pour collaboration avec l'ennemi, ouverte par un juge d'instruction de Marseille. Lourd, très lourd. Mais il n'y a pas que la peur de la guillotine qui anime le cœur du jeune Joseph. Il y a aussi le désir de vengeance qui le ronge. Car l'escapade meurtrière de la bande de Damiani, comprenant Joseph, son frère Paul, Jacques Ménassol et Georges Acab, d'anciens miliciens, s'est terminée dans le drame. Moins de 15 jours après leur rapt et le meurtre des frères Peugeot, tués le 31 mai 1945, la brigade criminelle de la police judiciaire se lance aux trousses de la bande de Damiani. Georges Acab est arrêté chez lui avec sa maîtresse Jacqueline, pourvoyeuse d'informations de la bande. Au métro Montmartre, Jacques Ménassol voit les policiers venir de loin, le temps pour lui de se loger une balle dans la tempe. Joseph, lui, ne peut s'enfuir quand les policiers viennent taper à la porte de chez ses parents. Et il est gravement blessé à la jambe. Il s'est lui-même tiré une balle, involontairement, quand il était en charge de surveiller l'un des frères Peugeot. Quant à Paul, le grand frère, il est arrêté à Strasbourg. Mais profitant d'un transfert, il s'évade et s'évapore, laissant seul son cadet en prison. Des mois plus tard, dans sa cellule, Joseph obtient enfin des nouvelles de son aîné. Elles proviennent d'une dépêche de Nice Matin.
Dans la soirée du lundi 17 juin, une scène sanglante se déroulait au bar des Santons, 24 rue de la Buffa à Nice. Deux hommes, qui un instant avant y consommaient au bar, étaient abattus par le patron de l'établissement. Mais l'identité des victimes est fausse. Celui qui se faisait appeler Georges Gay ou Jean Malandrome devait être en réalité le fameux Piero Damiani, c'est-à-dire un ancien agent de la Gestapo française, un évadé de la prison centrale où il était détenu sous l'inculpation de 3 meurtres.
Dans ses mémoires, Damiani écrit « À l'époque de ma tentative d'évasion à la prison de la Santé, je ne courais que vers un but étroit, me précipiter à Nice pour abattre ce patron de bar qui, d'une balle de Colt, avait expédié mon frère dans son dernier voyage. » Pendant que le futur romancier creuse son trou et rêve de sa vendetta, le juge d'instruction Lara continue de rassembler informations et preuves contre lui pour fait de collaboration. Il se rapproche du juge d'instruction Robert Lévy, en charge de l'affaire du triple meurtre de Suresnes. Un curriculum vitae du suspect dressé qui se conclut par ces mots. On se trouve en présence d'un individu extrêmement nuisible à la société et qui, avant d'être un assassin, a été traître à la cause de son pays et a commis des actes relevant du plus pur gangstérisme. Accablant. dans le bureau du juge Lara, les témoins défilent. À Marseille, rue Honorat, ce sont plus de 18 000 hommes qui ont été déportés de force vers les usines allemandes entre 1942 et 1944. La photo anthropométrique du jeune Damiani, cheveux mi-longs rejetés en arrière, les ragards, est présentée aux réquisitionnés du STO. Tous sont formels, c'est bien cet homme qui les a forcés à se rendre rue Honorat pour qu'ils soient déportés vers les usines allemandes. Le dossier s'épaissit. On retrouve sa trace dans un stage organisé par les nazis à la caserne Mortier à Paris. 12 jours où des dizaines de jeunes Français sont entraînés au maniement des armes, à débusquer des réfractaires au STO et à lutter contre la résistance. Une information judiciaire a été ouverte à Lyon pour une sombre affaire de vol dit aux faux policiers, orchestrée en août 1944. Damiani et un complice, déguisé en policier, aurait détroussé un négociant en soierie à un juif, Joseph Gorenstein. L'entourage familial de Joseph ne plaide pas non plus en sa faveur. Paul, son frère, chez qui il a séjourné quelques mois en 1944, a été arrêté la même année pour « relation avec la Gestapo ». Et puis il y a son oncle, Ange Paul Santoli, dit Santos, lui aussi gangster notoire. Il est membre du PPF de Jacques Doriot et accusé d'avoir entretenu des relations avec l'ennemi. Il aurait été le contact des deux frères Damiani dans la collaboration. Mais auprès des inspecteurs, il nie tout embrigadement de ses neveux.
Damiani Joseph est mon neveu. Je n'ai jamais eu de rapport avec le jeune homme qui se trouvait mobilisé dans la formation Jeunesse et Montagne, cantonnée en Savoie. Il faisait partie d'un service de renseignement à Nantes. Et j'ai pu savoir qu'il s'y était conduit brillamment par les certificats élogieux qui lui avaient été décernés par ses chefs. Je n'ai connu à mes neveux que le désir de bien servir leur pays et l'absence absolue de toute formation politique.
Reste cette histoire de résistance à Nantes à démêler, donc. Et ce sera le socle de la défense de Joseph et de la légende de José Giovanni. Il assure ainsi avoir séjourné chez sa sœur à Nantes à l'hiver 44 et avoir participé à des missions des services de renseignement pour l'armée française dans la poche de Saint-Nazaire, défendu jusqu'à la toute fin de la guerre par les troupes allemandes. Interrogé par le juge Lara, le chef des services de renseignement dans la poche de Saint-Nazaire confirme. En novembre 44, Joseph a bien franchi les lignes allemandes et a été fait prisonnier pendant un mois avant de revenir avec quelques informations précieuses. Alors méprisant, l'officier conclut. Par la suite, il m'a demandé plusieurs fois de se voir confier une mission d'espionnage. Je l'ai toujours éconduit. Comme je n'avais aucune intention de le faire incorporer au SR, je ne me suis pas renseigné sur son passé. Ces quelques faits d'armes ne suffiront pas à faire pencher la balance de la justice dans le sens de Damiani. De petites compromissions, fructueuses activités de profiteur de guerre, l'itinéraire de ce petit gars sans foi ni loi, proche de la pègre et marchant main dans la main avec l'occupant allemand, se dessine sous les yeux des jurés. Le 20 juillet 46, Joseph Damiani est condamné à 20 ans de travaux forcés, le bagne, et à la dégradation nationale. La presse régionale se félicite de sa condamnation. Et ce n'est pas terminé. Un autre procès attend Damiani, celui du triple meurtre de la Villa de Suresnes. Il débute 2 ans plus tard, en juillet 48, et cette fois, c'est dans toute la presse nationale qu'est placardé son nom et son visage. Dans ces années d'après-guerre, les quotidiens nationaux sont truffés de figures de la PEC française ayant pactisé avec l'ennemi ou d'escrocs minables qui ont vu dans le chaos de la libération l'occasion de faire des coups et de prendre un certain pouvoir. Leurs noms sont connus dans tout le pays et on attend avec avidité de les voir châtiés. On se repaît de ces histoires de carlingues, de gangs et de tractions avant, des crimes d'Henri Lafond, de Johan Ovici ou de Pierrot le Fou. Le fait divers comme catharsis, c'est tout un pays qui se purge en lisant la presse. Le procès de Joseph Damiani, Jean Jacab et leur complice Jacqueline ne fait pas exception. Il fait la une de l'Humanité, par exemple, le 10 juillet 48.
L'Humanité, 10 juillet 1948. Fils de bonne famille et élève de la Gestapo, les tueurs de Suresnes plastronnent devant les assises. La salle de l'Odéon est pleine. Dans le box des accusés, Georges Acade, 29 ans, Joseph Damiani, 25 ans, et Jacqueline Bonsergent, 26 ans. Acade, grand bellâtre, fixe tour à tour de ses petits yeux cruels le président et le substitut. Damiani, plus petit, malingre, a l'air indifférent. Le regard dans le vague, il se creuse le menton. Jacqueline semble vouloir plaire, plaire encore, plaire toujours. Trop gâtés, ils ont eu une enfance de fils à papa, pourri d'argent et bientôt de vice. Leur rôle sous l'occupation est assez sordide. Akkad trafique avec l'occupant, Damiani appartient à la milice, Jacqueline se fie à ses charmes pour subsister.
La sentence intervient le lendemain. Si Damiani et Akkad tentent par tous les moyens de reporter la culpabilité sur leur compère mort, les jurés, eux, sont sans pitié. Les deux sont condamnés à mort pour complicité d'assassinat. Dans Libération, le journaliste écrit « Je viens de voir deux hommes marcher d'un pas ferme pour la dernière fois dans le monde des hommes libres. »
Aucune raison de lui en vouloir, je pense seulement qu'il est nuisible et je le prouverai.
Mais il a payé sa dette. Maintenant, il travaille. Qu'est-ce que vous voulez ?
Messieurs les jurés, je sais qu'en refusant les circonstances atténuantes, vous irez vers l'absolu, c'est-à-dire vers la peine capitale que je vous réclame pour l'accusé.
Accusé, qu'avez-vous à ajouter pour votre défense ?
Rien.
Dans Deux hommes dans la ville, que José Giovanni considère lui-même comme son chef-d'œuvre, il livre un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. Ce film est nourri de toutes les angoisses qui l'ont habité quand, durant 7 mois, entre juillet 48 et mars 49, quand il a attendu dans le couloir de la mort, la grâce ou la guillotine, Jean Gabin joue dans le film un éducateur bienveillant, véritable ange gardien d'Alain Delon, tout juste sorti de prison et bientôt condamné à mort. Un Delon magnifique dans ce rôle, tout comme Bouquet dans le rôle du flic quasi sadique. Et puis, il y a ce hochement de tête de Gabin, au moment où il voit Delon partir à la guillotine. Oui, un simple geste, un clignement d'yeux qui semble dire « Quel gâchis, j'aurais tout fait pourtant, somptueux ». Dans le visage de Gabin, on peut y voir ceux des hommes qui ont tendu la main au jeune Damiani, parmi lesquels Stéphane Eke, son avocat, celui par qui l'incroyable histoire de l'écrivain a démarré. Oui, c'est lui qui le pousse à écrire dans le couloir de la mort. Damiani s'y essaye et y prend goût. Et déjà, un style sec et sans fioritures émerge.
31 décembre 1948. Triste année, pleine d'épreuves. Je vis la plus angoissante. Je n'ai pas particulièrement mauvais moral, mais je termine l'année sans croire à la grâce. Ce soir, j'attends la mort.
La mort ne viendra pas, en tout cas pas tout de suite. Le 3 mars 49, le président de la République commue la peine capitale prononcée contre Damiani et Akkad en travaux forcés à perpétuité. Puis en 51, cette peine est commuée à son tour en 20 ans de détention. Damiani voit enfin la lumière au fond du tunnel. Son avocat le pousse à écrire encore et encore. En 1952, Eke fait publier son journal d'un condamné à mort dans un recueil de textes contre la peine capitale auquel contribuent aussi Jean Cocteau et Albert Camus. Puis le 4 décembre 1956, à la faveur d'une nouvelle décision présidentielle, Joseph Damiani sort de prison. Il a 33 ans. Son avocat a attisé un feu en lui. Celui de l'écriture, et il va s'y consacrer pleinement.
J'écris vite, les pages s'entassent, je revois mes fantômes, les surveillants, la cohorte de détenus, je sens le froid, la faim, la peur, l'odeur des îles.
Dans son premier roman, il raconte sa tentative d'évasion ratée. Bien implanté dans le milieu littéraire, l'avocat Stéphane Eke fait lire le manuscrit à son ami Roger Nimier, qui travaille chez Gallimard. Nimier est emballé. Il fait lire à Claude Gallimard, qui trouve lui le manuscrit, disons, informe. Alors Nimier se met au travail avec Joseph et lui conseille de tailler dans l'engrais. Vous avez une écriture de comportement, laissez philosopher ceux qui n'ont rien à dire. Futé, Damiani accepte sans rechigner. Il coupe tout ce qu'on lui dit de couper et le manuscrit est accepté. En juillet 57, il signe ainsi son premier contrat d'auteur pour Le Trou, qui connaît un succès immédiat. En 2 ans, il fait paraître 4 nouveaux romans, tous inspirés de sa vie d'avant, la vie de Joseph Damiani. Mais sur les couvertures cartonnées de la collection Série Noire de Gallimard, celles de Deuxième Souffle, Classe au risque, L'Excommunié, Histoire de fou ou encore Les Aventuriers, on ne retrouve pas le patronyme de la petite famille de bandits corses. Joseph Damiani, ses démons et ses fautes sont restés dans le couloir de la mort. C'est un homme nouveau, José Giovanni donc, résistant, homme d'honneur, rescapé de la guillotine, qui devient dans les 60s le roi du polar.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, José Giovanni, dont nous parlons avec notre invité Laurent Delmas. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Co-présentateur avec Christine Masson de l'émission On aura tout vu sur France Inter, émission de cinéma évidemment, et auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du cinéma français, dont le récent Bertrand Tavernier, Le cinéma et rien d'autre, livre publié chez Gallimard. D'abord, revenons sur la carrière de Giovanni, qu'on a fait qu'esquisser finalement dans le récit. Côté film, hein, on a surtout raconté sa vie personnelle. Que représente Giovanni, son œuvre, dans le cinéma des Trente Glorieuses ?
Ah, c'est peut-être l'un des cinéastes les plus emblématiques de ce cinéma que vous avez décrit comme un cinéma à la papa.
Oui, c'est, j'assume.
Oui, bien sûr, je ne sais pas si c'est un cinéma à la papa, en tout cas, c'est pas un cinéma à la maman. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les femmes en sont absentes. C'est pas pour faire une révérence au temps présent que de dire ça, mais c'est aussi une façon de le décrire, ce cinéma. C'est-à-dire c'est un cinéma d'homme. C'est un cinéma écrit par des hommes, réalisé par des hommes et joué par des hommes. Alors, il y a quelques femmes qui s'insèrent de temps en temps. Notamment...
Oui, c'est pour s'entendre dire laisse-nous dans la cuisine.
C'est ça, devant les caméras, c'est quand même assez rare, mais c'est vrai que c'est une singularité. Et une fois de plus, on va, je pense, le redire assez souvent au cours de cet entretien, la vieille tarte à la crème, il faut séparer l'homme de l'œuvre ou il ne faut pas séparer l'homme de l'œuvre. Dans le cas de Giovanni, on ne peut pas séparer parce que effectivement, ce que vous avez très bien montré dans ce beau récit, c'est combien il y a une circularité de son destin avec son œuvre. Même, et je dirais à cause de son déni permanent, on ne peut que noter effectivement les résurgences de sa propre vie, ô combien tumultueuse, dans ce qu'il a écrit. Et singulièrement aussi sur effectivement cette espèce de monde sans femme qui était absolument le sien et qu'il n'a pu qu'instiller dans ses films ensuite, comme scénariste et comme réalisateur.
Alors on peut dire vraiment que c'est du cinéma populaire, c'est typiquement le film du dimanche soir. À cette époque, les années 70, il y avait le film du dimanche soir. Tout à fait ça.
Avec effectivement un genre majeur, en majesté, qui est le polar, qui fonctionne très très bien parce que c'est toujours des histoires de flics et de voyous, de gendarmes et de voleurs, ça marche depuis presque la nuit des temps, on pourrait presque dire. Avec néanmoins, c'est ça aussi qui en fait peut-être sa beauté, ou en tous les cas son plus grand intérêt en dehors du genre proprement dit. Giovanni l'a lui-même dit avec justesse, je crois, c'est que ce qu'il a amené dans le polar français de cette époque-là, ce sont des descriptions d'hommes perdus. C'est-à-dire d'hommes qui vont jusqu'au bout de leur destin, tout en sachant qu'ils sont des hommes perdus. Une fois de plus, on retrouve le destin de Giovanni. Hein. C'est évidemment un homme perdu, Giovanni. Hein. Quand on a revêtu l'habit de la carlingue, on est perdu à vie et à vie. Et cette façon qu'il a eue de décrire pour Sauté, pour Melville, pour lui-même, pour Robert Enrico, pour tous ces cinéastes pour lesquels il a travaillé, ces gens en déshérence, ces gens seuls dans la ville, ces hommes seuls dans les villes qui marchent, comme le fait par exemple Lino Ventura dans le sublime film de Claude Sauté, Classe Touriste.
Classe Touriste, oui.
C'est un des premiers films, hein, c'est un de Giovanni, et c'est un motif qui sera en permanence récurrent, porté très souvent par la figure, effectivement, de Lino Ventura.
Alors, c'est dû à Claude Sauté, mais c'est vrai que Classe Touriste est un polar élégant. Il est vraiment très élégant. Maintenant, pour ce qui concerne Deux hommes dans la ville, l'autre film que je voudrais citer, il est peut-être moins élégant, il n'y a pas d'effet de manche cinématographique, mais il y a une science du scénario qui est incroyable. La première à la dernière minute, il se passe quelque chose, quoi. Et ça, c'est fort pour le cinéma populaire, et c'est vraiment aussi un des ingrédients du succès de Giovanni.
Ah oui, ça, je crois que le cinéma populaire, comme la littérature populaire est portée pour la littérature par des gens comme Alexandre Dumas, par exemple, José Giovanni, il sait raconter une histoire. Voilà, il sait dresser des mousquetaires qui partent à la recherche de Ferré, enfin des choses comme ça, comme pour Dumas. Lui, il sait effectivement raconter l'histoire, une fois de plus qu'il puise dans sa vie. Alors, bon, le personnage central de Classe Touriste, joué par Ventura, Davos dans le film, le petit chaînon qui manque dans la vision qu'on en a.
C'est son passé.
C'est le passé. Le passé, c'est un homme de la carlingue, c'est un homme de la Gestapo française, hein, réellement, dans la vraie vie. Oui. Il était surnommé le tortionnaire de la Gestapo. Donc c'est quand même pas un type éminemment sympathique. Le formidable pari de Giovanni et de Sauté, c'est de l'avoir humanisé, et de Ventura aussi, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça plaisait à Ventura, ce genre de choses, c'est de l'avoir
notamment
humanisé.
Notamment la rencontre avec son fils.
Mais bien sûr,
c'est
ça qui a d'ailleurs motivé Claude Sauté. C'est-à-dire que Claude Sauté l'a dit à Giovanni, il a dit « Je fais ce film parce qu'à un moment, votre héros va voir son fils alors qu'il est traqué et qu'il dit à son fils, si tout d'un coup, je suis entouré par des hommes dans la rue. Tu ne cherches pas à me retrouver, tu ne cherches pas à m'approcher, tu t'en vas, tu pars, tu vas dans une église et tu demandes de l'aide. » Donc cette scène-là, elle est pour Sauté fondatrice, et quand Giovanni l'a entendu lui dire ça, il lui a dit « Vous avez tout compris. C'est ce que je veux dire, donc on va faire le film ensemble, il n'y a aucun problème. » Et puis pour Deux hommes dans la ville, on a à nouveau cette récurrence qui est complètement saisissante de quelqu'un, José Giovanni, venu de l'extrême droite, et étant resté, je pense, intellectuellement, au moins à droite, ayant été dans le couloir de la mort, qui va faire l'un des films les plus abolitionnistes de l'histoire du cinéma français. C'est-à-dire qu'il va aller contre son camp. L'abolition de la peine de mort n'est pas un thème de droite, bien au contraire, que lui-même a pratiqué la peine de mort, quelque part, hein, en l'infligeant à des gens. Mais il est resté dans le couloir de la mort, il s'en souvient en tant que scénariste et écrivain, et là, il va faire un film incroyablement abolitionniste. Donc c'est ça le paradoxe Giovanni, en permanence, c'est-à-dire que c'est ce passé qui, comme vous disiez très bien, ne passe pas, le remords permanent associé au déni permanent. Il n'y a pas plus abyssal.
C'est clair. Dans ce genre de cinéma, il y a toujours des bagnoles, hein, des bagnoles qui roulent vite. On va écouter Mes voitures, de Miossec.
Allons-y.
Celle que je n'ai jamais
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Laurent Dalmas, d'abord une petite culture de questions générales. Pour moi, est-ce qu'on peut dire que Claude Sautet fait partie de la nouvelle vague ou est-ce qu'il est à la frontière ou...
Alors, vous avez une heure Non, il fait pas partie de la nouvelle vague pour des raisons presque, je dirais, de génération chronologique et que il est comme beaucoup d'autres, comme des gens comme Bertrand Tavernier aussi, par exemple, à la jonction.
À la jonction, c'est ça. À la frontière, à la jonction.
Oui, parce que vous avez en même temps raison, parce que Classe Touriste est tournée avant.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Avant Un Bout de Souffle. Or, on y trouve des choses comme, par exemple, la première scène, qui est une scène de hold-up urbain, sauter la tourne sans autorisation, dehors, donc hors des studios, et à l'improviser plus précisément. C'est exactement le cahier des charges de la nouvelle vague. Donc de ce point de vue-là, il est dedans. Et cette façon qu'il a de nous montrer un gangster, en l'occurrence Ventura, c'est un peu la même façon qu'aura Godard de nous montrer un autre gangster qui est Jean-Paul Belmondo dans Un Bout de Souffle. Donc c'est vraiment des gens qui prouvent que, certes, la nouvelle vague est extrêmement spécifique, mais qu'en même temps, bien évidemment que la nouvelle vague, elle existait aussi avec Melville, par exemple. Les premières œuvres de Melville, elles sont de l'ordre de la nouvelle vague. Et puis, il faut pas oublier qu'Agnès Varda a travaillé aussi avant la nouvelle vague et dire combien ces films sont marqués par cette ère du temps-là. Donc, ne faisons pas trop. Je pense qu'on est arrivé maintenant, et c'est très très bien, à un moment de rétrospective sur l'histoire du cinéma, où on peut enfin se détacher des postulats, se détacher des anathèmes, se détacher des trop grandes écoles, pour dire ô combien la nouvelle vague a été importante, et pour dire aussi ô combien elle n'est pas une totale rupture, mais qu'il y a des formes et de continuité et de rupture dans ce moment-là, mais qu'il vaut mieux envisager les choses sous la forme d'un continuum avec un pic qui serait une nouvelle vague, plutôt que de monter les uns contre les autres.
Il n'en reste pas moins que l'œuvre, l'ensemble de l'œuvre, ou la plupart de l'œuvre de José Giovanni, que ce soit par l'écriture et par le tournage, n'est pas nouvelle vague, on peut le dire.
Absolument. Bon. Non, ça c'est clair. Il est évident que le beau film dont nous parlions tout à l'heure sur, entre guillemets, l'abolition de la peine de mort.
Deux hommes dans la ville.
Est d'une facture ultra classique.
Ultra classique.
Bien évidemment, c'est ce que une partie de la critique a pu lui reprocher à l'époque. Bon, je pense que lui n'avait rien à répondre de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je crois quand même qu'il avait le sentiment, effectivement, d'être d'abord un écrivain puis un cinéaste et que par rapport à Sautet ou à Melville notamment, c'est pas la même grammaire, c'est pas la même volonté esthétique, c'est pas la même perception de l'outil caméra. Voilà. Après, il y a une redoutable efficacité scénaristique dont vous parliez tout à l'heure, qui permet d'emporter le morceau en quelque sorte.
Alors, du début à la fin.
Du début à la fin, et soutenu quand même, il faut le dire et
les
le redire.
Acteurs.
Exactement. Oh. Par Delon, Belmondo, Ventura.
Bouquet dans le flic qui ne lâche rien est terrible.
Mais bien entendu, on pourrait comme ça multiplier effectivement, et les seconds rôles aussi. Une grande attention, comme le cinéma français à la papa avant la nouvelle vague, c'est combien les seconds rôles sont importants. D'ailleurs, aussi, la nouvelle vague reprendra à son compte cette importance-là. Les petites figures, vous savez, les petits rôles, ceux qu'on voit pendant une scène, deux scènes, pas plus, les Dalio, les Dalban, etc.
Les Constantins,
Constantins, mais bien évidemment, qui démarrera dans le trou. Donc, tout ça, c'est consubstantiel à ce cinéma et ça lui donne sa chair, son sang, sa fève.
On s'y attache.
On s'y attache énormément. Il y a une identification possible. On peut peut-être plus s'identifier à des seconds rôles, des petites figures, qu'à des gangsters de haut vol, bien évidemment. Enfin, moi, en tous les cas.
Alors, vous connaissez bien Bertrand Tavernier et son œuvre. Quel est le rapport de ce cinéaste à toute cette histoire? Quels furent ses liens avec Giovanni?
En fait, les liens, ils viennent notamment de Sautet, pour lequel Bertrand Tavernier, comme attaché de presse, notamment, a travaillé. Vous savez, Tavernier, avant d'être un cinéaste, son arrivée dans l'école des cinéastes a été relativement tardive. Pas tant que ça, mais quand même, le premier film, L'Horloger de Saint-Paul, c'est la fin des années 70. Il a eu avant une vie. une autre vie, mais une vie de cinéma, une vie d'attaché de presse. Il faut se souvenir quand même que qui est l'attaché de presse de Pierrot le Fou, c'est un certain Bertrand Tavernier. Mais oui, bien sûr. Donc les liens avec la Nouvelle Vague aussi sont forts pour Bertrand Tavernier, mais les liens aussi avec tous ces grands du cinéma. Il a travaillé avec Melville, par exemple, Bertrand Tavernier. Donc Melville, Sauté, Giovanni, tout ça, c'est la même famille, c'est le même moment du cinéma français. Et Tavernier est là, il les regarde, il les assiste, il travaille avec eux, il les interroge, etc. Donc c'est pour lui, effectivement, ça a été pour Tavernier les années de formation. Giovanni fait partie de ce corpus, en quelque sorte.
Est-ce que les années 60 et 70 ont été un âge d'or du polar français ou non ?
Oui, si, je pense qu'avec notamment quelqu'un comme Jean-Pierre Melville, on peut assurément parler de polar. Et puis, on voit bien que des gens comme Claude Sauté, dont l'immense majorité de la filmographie n'est pas du polar, hein, Les Choses de la Vie, Vincent François Paul et les autres, oui. Nelly et Monsieur Arnon, on est très très loin du polar. Mais il y a Clastourisque, qui commence presque la carrière, mais il y a aussi, par exemple, Max et les Ferrailleurs. Max et les Ferrailleurs, c'est quand même un grand, pour moi en tout cas, c'est un grand polar français, avec une figure de flic absolument pervers, une sorte de Robespierre de la police quotidienne qui fait tomber des petits voyous. C'est un très très beau polar, c'est un polar noir, c'est un polar à la fois très mélancolique. Donc oui, il y a une apogée avec des gens aussi qui prendront le relais comme Alain Corneau, qui sauront effectivement donner à ce polar à la française toute sa spécificité, parce qu'il emprunte évidemment au polar américain des grandes années, mais il donne aussi, comme le faisait Giovanni, une singularité, une spécificité française.
Vous faites bien de citer Corneau et le polar, parce que c'est une belle collection.
C'est sûr.
Merci infiniment, Laurent Delmas.
Merci, Fabrice.
Samedi.
Volontiers.
Hein, 10h.
Avec plaisir,
10h. Bon, sur France Inter. Affaires sensibles aujourd'hui, José Giovanni. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.